Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, nous contemplons la Sainte Famille, composée de la Bienheureuse Vierge Marie, choisie entre toutes les femmes pour devenir la Mère de Dieu. Avec Saint Joseph, que l'Évangile qualifie de juste parce qu'il est par toute sa vie parfaitement ajusté à la loi de Dieu. Il vit pleinement de l'ancienne alliance qui tient à son accomplissement alors qu'il porte l'enfant Dieu dans ses bras. Et bien sûr, nous continuons depuis la nuit de la Nativité à contempler, à adorer l'enfant Dieu. Nous sommes représentés chacun avec nos pauvretés et la faiblesse de notre nature par les bergers. Les bergers qui ploient leurs genoux, les bergers qui adorent le Fils de la promesse, qui contemplent l'accomplissement de la parole angélique qui vient de leur être révélée, le Sauveur est là, emmailloté, couché dans la mangeoire. Dans la nuit de Noël, je vous disais, frères et sœurs, que ce signe donné par les anges, un enfant emmailloté, c'est-à-dire qui ne peut pas bouger, est déjà le signe de la mort du Seigneur sur le bois de la croix, cloué, les bras grands ouverts, dans cet acte d'accueil, mort par amour pour nous, comme on l'atteste dans l'Évangile, il fait bon accueil aux pécheurs, même immobilisé sur le bois de la croix, comme il est immobilisé dans la mangeoire. Voilà tout le sacrifice du Christ qui nous est annoncé. De même, la Sainte Vierge a déposé cet enfant, c'est le signe donné par les anges, dans une mangeoire. Il est le pain vivant qui descend du ciel. Il vient à notre rencontre pour nous sauver, alors que nous contemplons ce que saint Thomas d'Aquin appelle le miracle des miracles, dans cette incarnation où Dieu se fait homme pour que nous les hommes rejoignions Dieu, où dans cette humanité du Christ reçue de la Bienheureuse Vierge Marie se tient cachée la gloire de sa divinité. Voilà le mystère du Christ, miracle parmi les miracles, puisque la nature divine est cachée par la faiblesse de la nature humaine. Nous sommes de même réunis en cette Église, en ce dimanche, jour consacré au Seigneur, pour ce que saint Thomas d'Aquin appelle également le miracle des miracles. Cette fois-ci, le bon Dieu ne descend plus en prenant notre nature humaine, il descend dans le pain et le vin qui sont alors consacrés par sa présence. Nous ne voyons pas avec nos yeux de chair la présence du Seigneur, mais dans la foi, dans l'espérance, en raison de cette charité du Christ qui nous étreint dans le sacrifice eucharistique, nous savons qu'il est là, présent au Saint-Sacrement. Il descend alors dans la pauvreté de nos crèches intérieures, et là encore, nous demeurons comme les bergers. Nous accueillons dans la pauvreté le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui vient alors nous donner les largesses de sa vie divine. Ce grand mystère est annoncé dans les saintes écritures, et dans l'évangile de ce dimanche, il est fait écho de l'Égypte. L'Égypte, dans la tradition d'Israël, dans la tradition biblique, c'est la terre où l'on a été réduit à l'esclavage. Il y a certes notre patriarche Joseph qui réussit à devenir premier ministre de l'Égypte. Mais voilà que après le règne de Joseph, eh bien ce peuple d'Israël qui devient de plus en plus nombreux, ce peuple d'Israël qui menace par ses innombrables naissances de garçons forts et vigoureux l'existence même des Égyptiens, est alors réduit en esclavage. Réduit en esclavage, il s'agit de fabriquer des briques, briques sur briques, pour pouvoir eh bien, construire les splendeurs que nous connaissons de l'Égypte ancienne. Eh bien voilà que c'est en Égypte que le bon Dieu a fait passer ce peuple de l'esclavage jusqu'à la liberté des enfants de Dieu sous la conduite de notre patriarche Moïse. De telle sorte que lorsque saint Joseph apprend par les anges qu'il s'agit pour lui de fuir, mais de fuir en Égypte, il y a de quoi être ému, retourner dans la terre de l'occupation, retourner dans cette terre d'où le bon Dieu les avait fait sortir pour leur donner enfin la terre promise. Il y a de quoi être surpris. Pourtant, nous l'avons entendu, Joseph se lève. Il prend avec lui l'enfant et sa mère et fuit en Égypte. Aux yeux du monde, ce serait comme battre en retraite, retourner dans le lieu de l'occupation et de l'esclavage. Tout cela pour que s'accomplisse la parole de l'Écriture, nous précise saint Matthieu dans son évangile, « D'Égypte, j'appellerai mon fils ». Notre Seigneur Jésus le Christ est donc le nouveau Moïse. Il est né à Bethléem, dans la ville des pains, parce qu'il est le pain vivant qui descend du ciel. L'heure n'est plus d'attendre la manne qui descend du ciel dans ce désert de ce monde. L'heure est de passer de l'esclavage du péché pour atteindre la liberté des enfants de Dieu et non plus entrer dans une terre promise d'ici-bas, mais de prétendre à la vie éternelle du ciel en paradis. Joseph accomplit donc en homme juste les saintes Écritures en conduisant dans ce pays son épouse et cet enfant. Nous voyons là le rôle du patriarche saint Joseph, homme à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il tient de l'Ancien Testament car les anges ne viennent pas lui parler directement comme à Notre-Dame. Les anges gardent, comme dans l'Ancienne Alliance, ses messages dans les songes. Voilà que Joseph est l'homme qui dort du sommeil du juste, même dans les pires tourments de sa famille. Et comme on l'a entendu plusieurs fois, il se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère. Nous aussi, frères et sœurs, dans les esclavages de ce monde, dans les addictions de ce monde où nous risquons de nous perdre, nous avons à entendre la voix de Dieu dans le silence de nos cœurs, à la garder et à la méditer à l'école de la bienheureuse Vierge Marie et comme Joseph, de nous lever et d'affronter ce que le Seigneur présente à nous sur nos chemins de croix, de nous lever et comme saint Joseph, de prendre avec nous et l'enfant et sa mère. Dans nos crèches intérieures, le Seigneur est bien présent. Et là où se trouve le Seigneur, là se trouve également la bienheureuse Vierge Marie. Cet enfant va donc venir d'Égypte, il est le nouveau Moïse. Avec lui, il ne s'agira plus seulement de passer la mer Rouge à pied sec, il s'agira eh bien, de traverser les ravins de la mort pour atteindre l'autre rive. Il nous attend en Galilée, dans la Galilée céleste, où le ressuscité nous convie chacun. De même, saint Joseph apprend qu'il est opportun maintenant pour lui de retourner dans la terre sainte d'Israël. Il va s'établir dans cette cité de Nazareth, car dans les saintes Écritures, l'on avait annoncé que le Messie serait appelé le Nazaréen. C'est bien ce que nous retrouvons en haut de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est bien le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui vient à nous, le Dieu créateur, celui qui est le rédempteur. Il sera notre juge, mais pour ne pas que nous ayons une crainte qui nous laisserait comme immobiles, pour pouvoir, comme Joseph, nous lever avec la mère et l'enfant et affronter les situations de l'existence. Voilà que le Seigneur paraît sous les traits de cet enfant. De cet enfant dont nous pouvons lire dans l'ambiance de la crèche, eh bien, cette paix du ciel, cette tendresse de Dieu qui vient à notre rencontre. Bien sûr, il reviendra dans la gloire au dernier jour. Et cette fois-ci, ce ne sera plus dans l'anonymat de la crèche de Bethléem, mais au plein jour qu'apparaîtra la gloire de sa divinité et chacun en sa conscience au plus profond de son âme sera obligé de le reconnaître comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, comme ce Dieu d'amour et de vérité qui vient pour nous relever de nos fautes, pour nous relever de l'obscurité du tombeau et nous délivrer du mal. Tout cela dans son silence, dans son sommeil, saint Joseph en est le gardien. Il est le gardien de tous les mystères que la Sainte Vierge Marie garde et médite dans son cœur. Il est le gardien de la Bienheureuse Vierge Marie dans cette virginité de Notre-Dame. Il en est le protecteur. Elle est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Elle est la Vierge qui est devenue mère pour mettre au monde, non pas un homme seulement, mais pour mettre au monde Dieu qui vient à notre rencontre. Il est non seulement le gardien de son épouse, la bienheureuse Vierge Marie, mais aussi le gardien de cet enfant lorsque ses jours sont menacés. Nous contemplons donc en ce dimanche la Sainte Famille. Si dans les Écritures de la Nativité que nous avons entendue et méditée, il était fait référence du contexte politique, l'on nous disait, comme on le faisait alors, pour situer un événement dans le temps, qui était l'empereur à Rome, qui était gouverneur alors en Syrie. Parfois, l'on nous dit qui était le grand prêtre du temple de Jérusalem. C'est ainsi qu'on replaçait dans le temps un événement dont on voulait alors parler. Cela nous dit que le Seigneur entre dans notre histoire. Il entre dans un contexte politique, sous la domination de l'Empire romain, où le royaume d'Israël, dont la Sainte Vierge a entendu que son règne n'aurait pas de fin, dont la Sainte Vierge et Saint Joseph ont entendu dans le songe ou au jour de l'Annonciation que ce règne était celui du roi David, eh bien voilà que cette terre est occupée. Et notre Seigneur Jésus le Christ ne va pas tant s'occuper de la libération d'Israël que de la libération du règne du péché qui nous conduit à la mort et au mal. Cette sainte famille est une famille, nous le savons, atypique. Saint Joseph n'est pas le père dans l'ordre de la chair de notre Seigneur Jésus le Christ, mais Dieu a voulu que Saint Joseph soit non seulement l'époux de la bienheureuse Vierge Marie qu'il aime tendrement, mais qu'il tienne lieu également de père. Il se tient donc, Saint Joseph le Juste, à l'ombre de Dieu le Père. Quelle responsabilité! Dans les Saintes Écritures, dans les 10 commandements, le 4e nous invite chacun à honorer notre Père et notre Mère, d'honorer dans un sens plus large notre parenté et d'honorer dans un sens encore plus large, mais qui lui est profondément lié, notre pays. Effectivement, dans le 4e commandement, cet amour familial nous est demandé. Honorer notre père et notre mère. Honorer ceux par qui nous avons reçu la vie. Nos parents ont procréé parce que Dieu a insufflé au premier instant de notre existence dans le sein de notre mère cette âme qui vise l'éternité. Nous sommes déjà, du point de vue de cette réalité naturelle et surnaturelle, conjugués dans le sein de notre mère qui est le sanctuaire de la vie, mais tout autant de la vie divine, cette âme éternelle qui fait de nous à la fois l'enfant de nos parents, mais tout autant l'enfant de Dieu. Nous avons à honorer notre père et notre mère. Bien sûr, nous laissons de côté tous ceux qui auraient eu de grandes souffrances et de douleurs à endurer, ou de la part de leur père ou de leur mère. Le Seigneur ne nous invite pas à aimer coûte que coûte. Oui, il nous invite à aimer notre Père et notre Mère dans le respect et dans l'honneur. Nous l'avons entendu dans les Saintes Écritures, nous avons un devoir à leur endroit. Devoir de fidélité vis-à-vis de notre éducation, de la foi qu'ils se sont efforcés de nous transmettre. Nous avons aussi un devoir à leur endroit quant à leur vieillesse, et même un devoir qui continue par-delà le mystère de la mort, celui d'honorer notre Père et notre Mère en priant pour leur repos, comme tout cela se dit et se vit tout autant pour notre famille au sens plus général. Quand le Seigneur nous invite à aimer Dieu de tout son cœur et notre prochain, n'oublions pas que la proximité est d'abord celle de notre famille. Le Seigneur non seulement est entré dans l'histoire, mais il entre dans une famille. Il entre dans une famille qui est issue de la tribu du roi David. Il entre dans une famille, dans une tribu, dont l'ensemble des 12 tribus d'Israël fondent une nation. Lorsque nous méditons le Magnificat de la Sainte Vierge, nous pouvons retrouver ce lien qui nous unit à Dieu. « Mon âme exulte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Nous retrouvons au cœur du Magnificat la confession de la sainteté du nom de Dieu. Puis nous entendons également la Sainte Vierge dans des accents bien plus patriotiques, nous dire à quel point le Seigneur est là pour relever Israël par fidélité à Abraham, par fidélité à toute sa loi d'amour et de vérité. Alors en ce dimanche de la Sainte Famille, prions pour toutes les familles d'ici-bas, pour les familles dans l'action de grâce, de tout ce qu'elles peuvent vivre et accomplir de bien. Une prière d'intercession pour toutes les familles qui vivent de graves difficultés du monde du travail, du monde de la santé, ou encore, il y en a parmi nous, suite à la perte d'enfants trop tôt rappelés à Dieu. Ce mystère de la famille, le Seigneur a voulu l'apprendre. Il a voulu également connaître son réconfort, cette action de grâce, ce soutien. Et nous voyons la bienheureuse Vierge Marie, veuve de Saint Joseph, au jour de la Passion, croiser notre Seigneur Jésus le Christ dans les méandres de ses tourments. Nous la retrouvons fidèle au pied de la croix, la mère de l'espérance. Eh bien, nous demandons à celle qui est notre mère, à Saint Joseph, le patriarche de la Sainte Famille, et à l'Enfant Dieu, de bénir et de soutenir toutes nos familles. Et nous prions ardemment, car cette réalité première, à l'origine même d'une nation, puisse à nouveau resplendir, que nous puissions de nouveau soutenir la famille. Puisse donc le Seigneur nous bénir, ainsi soit-il.